Voici une question dont la réponse est vitale pour tout être humain. De quelle manière est-ce qu'un pécheur peut obtenir le pardon de ses péchés? Il est très important qu'on écoute bien la réponse que donne la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Les réponses qu'on va recevoir de la parole de Dieu aujourd'hui sont en rapport avec le péché. Je sais que le mot « péché » n'est pas très populaire de nos jours, mais le péché existe encore, et on a besoin de savoir ce que Dieu en pense. Voici nos questions. Pourquoi est-ce que l'être humain commet des péchés? Qu'est-ce qu'on a à apprendre concernant le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité qui était offert du temps de Moïse? Est-ce qu'on a tous une nature pécheresse? Comment est-ce que la croissance spirituelle d'une personne débute? Est-ce que l'être humain peut connaître son propre cœur? Quelle est la solution pour celui qui pêche? Y a-t-il des degrés de responsabilité pour celui qui pêche? Comment un pécheur peut-il adorer Dieu et prier? Demeurez à l'écoute. Vous serez encouragés par les solutions que donne la Bible concernant le péché. Écoutons bien le pasteur Régent Joly, qui a trouvé toutes nos réponses dans les Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Seigneur, on veut que tu nous enseignes concernant le péché. On sait, mon Dieu, que tu aimes les pécheurs, mais que tu détestes le péché. Apprends-nous à nous en détourner complètement. Aide-nous, Seigneur, à mieux connaître notre nature pécheresse, à nous éloigner de tout ce qui est péché. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, après avoir examiné les trois offrandes d'odeur agréable qui symbolisent la personne de Christ, nous passons maintenant aux offrandes d'odeur non agréable qui symbolisent son œuvre à la croix. Le sacrifice de culpabilité nous enseigne au sujet de notre nature pécheresse, et le sacrifice d'expiation se rapporte au péché que nous commettons volontairement. L'homme est pécheur par nature, et il est pécheur à cause des actes qu'il commet. C'est parce qu'il a une nature pécheresse qu'il commet des péchés. Quelques caractéristiques de l'offrande de culpabilité la distinguent des autres offrandes, ce qui souligne son importance. Voici ses traits de caractère. Le texte détaillant les instructions au sujet de cette offrande est deux fois plus long que le texte des autres offrandes. L'Holocauste est traité en 17 versets, l'offrande de fleurs de farine en 16 versets, l'offrande d'action de grâce en 17 versets, et le sacrifice d'expiation en 19 versets. Le texte qui traite du sacrifice de culpabilité a 35 versets. Il semble que l'Esprit de Dieu juge la question importante. L'offrande de culpabilité est une nouvelle offrande. Jusqu'ici, nous n'en avons pas trouvé de traces dans la Bible. Nous n'avons pas aucune indication, nous démontrant qu'on en avait offert auparavant. Même les nations païennes n'en avaient pas l'équivalent. Troisième point. Au moment où la loi fut donnée, elle est devenue l'offrande la plus importante à cause de sa signification. Voyez-vous, l'homme était un pécheur avant que la loi lui soit donnée, et cette même loi lui a révélé qu'il était pécheur. L'offrande de culpabilité était offerte à toutes les grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte, la fête des trompettes et la fête des tabernacles. L'offrande de culpabilité était aussi offerte le jour de l'expiation, le seul jour où le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint. Quatrièmement, même si l'offrande était présentée sur le même autel que l'Holocauste, il y avait des différences frappantes. Parle à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Lévitique, chapitre 6, verset 25. L'Holocauste nous illustre qui est Christ. L'offrande de culpabilité nous illustre ce que Christ a fait. L'Holocauste nous enseigne que Christ a satisfait aux exigences de Dieu qui sont conformes à la sainteté parfaite. L'offrande de culpabilité nous enseigne que Christ pourvoit aux besoins profonds et désespérés de l'homme. L'Holocauste souligne la beauté et la valeur de Christ. L'offrande de culpabilité souligne la haine de Dieu pour le péché. L'Holocauste était une offrande volontaire. L'offrande de culpabilité était obligatoire. L'Holocauste élevait une odeur agréable vers Dieu, alors que le sang du sacrifice de culpabilité était versé autour de l'autel. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 4, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. » L'accent est mis sur le péché involontaire, commis par ignorance. Cette offrande ne servait pas à expier les péchés délibérés. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 28. Il n'y a pas de salut pour une personne qui rejette Christ en connaissance de cause. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux, chapitre 10, versets 26 et 27. Le péché involontaire nous indique que l'homme a une nature pécheresse. Mes amis, je dois vous dire quelque chose. Vous êtes un pécheur, que vous le sachiez ou non. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous une nature pécheresse. C'est pour cette raison que nous commettons des péchés. Qu'importe l'époque et la culture, l'homme a toujours été pécheur. L'attitude de Dieu vis-à-vis le péché est immuable. Nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, car il est impossible que l'homme naturel puisse faire quelque chose qui plaît à Dieu. L'homme naturel en est incapable parce qu'il a une nature pécheresse. On doit porter l'attention de l'homme naturel sur ses péchés. Qu'importe qui commet des péchés involontaires, c'est toujours du péché. L'offrande de culpabilité devait susciter une conviction de péché profonde. Cette conviction ressort dans la littérature de la race humaine. Le sentiment profond de culpabilité doit être diagnostiqué avant qu'on puisse lui prescrire le remède approprié. Voyez ce que le roi David dit. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le psaume 139, versets 23 et 24. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Le psaume 51, verset 6. C'est ce que j'appelle se faire analyser par Jésus-Christ, plutôt que de se faire analyser par un psychiatre. Beaucoup de personnes éprouvant des sentiments de culpabilité vont voir un psychiatre de nos jours. On croirait qu'un psychologue ou un psychiatre possède une habileté dont la parole de Dieu ne parle pas. Cette impression est fausse. la Bible contient les réponses dont l'homme contemporain a besoin. Vous avez un problème qui suscite des sentiments de culpabilité ou vous avez un problème de personnalité? Alors, pourquoi ne pas consulter Jésus-Christ et lui dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Mes amis, notre problème n'est pas que notre mère ne nous a pas donné suffisamment d'affection lorsque nous étions jeunes. Notre problème, c'est que nous avons une nature pécheresse. Alors, allons nous étendre sur le divan de Dieu et racontons-lui cela. Les péchés involontaires sont des actes commis alors que l'auteur ne savait pas qu'il pouvait en être puni. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore, nous dit le psalmiste dans le psaume 19, verset 2. Nous devons confesser à Dieu que nous sommes des êtres pécheurs. Si vous ne pouvez pas penser à un péché en particulier, alors confessez que vous êtes un pécheur. Un groupe d'hommes se réunissait régulièrement afin de prier. L'un d'eux disait souvent dans sa prière, « Seigneur, si nous avons commis un péché quelconque, pardonne-nous. » Cette prière, répétée souvent, vint à agacer le groupe, et quelqu'un dit à l'homme, « Pourquoi ne nommes-tu pas le péché ?» L'homme répondit qu'il ignorait quel était le péché. L'animateur du groupe dit, « Alors pourquoi n'en devines-tu pas un ?» Vous savez, c'est l'homme qui faisait la prière qui avait raison dès le départ. Nous devons confesser nos péchés à Dieu. Dieu avait établi des villes de refuge pour les homicides involontaires qui étaient le résultat d'un accident. Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Le livre des Nombres, chapitre 35, verset 11. Dieu a un refuge pour vous, mes amis. Il vous propose une solution. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul a expliqué pourquoi qu'il se considérait le plus grand des pécheurs et pourquoi il a obtenu miséricorde malgré cela. Paul était blasphémateur, injurieux, et il persécutait les chrétiens. Mais il a obtenu miséricorde, car il agissait par ignorance et incrédulité. Il a dit, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » L'épître de Paul à Timothée, premier épître, chapitre 1, versets 14 et 15. Le sacrifice de culpabilité nous apprend que nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Ce sacrifice nous aide à prendre conscience de notre péché et du fait que nous ne méritons rien sauf l'enfer. Mais il nous parle aussi de la solution de Dieu pour notre péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, verset 5. Dieu sait comment régler la question de nos sentiments de culpabilité. L'offrande de culpabilité nous montrait qu'elle était elle-même inadéquate à régler le problème de notre péché. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Psaume 40, verset 7. Cette offrande nous dirige vers le sacrifice parfait accepté par Dieu, ainsi que son pardon. écoutez ce texte attentivement. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comment puis-je, moi un pécheur, venir en présence de Dieu avec assurance? Parce que Jésus est notre sacrifice de culpabilité. Il efface même les péchés involontaires faits par ignorance. Le péché involontaire attire notre attention sur un autre aspect de la justice de Dieu. Même dans son traitement des pécheurs, Dieu est parfaitement juste. Il y aura des degrés de punition, aussi bien qu'il y aura des degrés de récompense. Le degré de responsabilité est exprimé dans les offrandes de culpabilité pour différentes classes d'individus. Lévitique, chapitre 4, verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Dieu s'arrête premièrement sur les péchés des sacrificateurs, car ils ont des positions de leadership. Si le sacrificateur péchait, le peuple péchait avec lui. Le peuple suivait le sacrificateur. Le sacrificateur devait amener l'animal le plus précieux comme offrande, soit un jeune taureau. La position du pécheur déterminait le type d'offrande qu'il devait apporter. Son péché n'était pas différent de celui des autres, mais sa responsabilité était plus grande. Il en est toujours ainsi aujourd'hui. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 17. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Toujours l'Épître de Jacques, chapitre 3, verset 1er. Voulez-vous devenir un pasteur? Vous aurez alors une responsabilité beaucoup plus grande. Voulez-vous chanter un solo? Vous serez tenu plus responsable. Voulez-vous un poste d'ancien, de diacre, d'enseignant? Alors vous serez tenu plus responsable que les autres chrétiens dans votre assemblée. Les privilèges viennent avec un plus haut degré de responsabilité, et c'est Dieu qui vous demandera des comptes. Rendre le peuple coupable signifie l'entraîner dans le péché. Donc, les sacrificateurs sont tenus responsables de leurs actes. Ils étaient des humains sujets aux mêmes tentations que nous. C'est là la différence entre Jésus-Christ et les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Chers amis, revenons à notre livre du Lévitique, chapitre 4, cette fois lisons les versets 4 à 7. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Le rituel de l'offrande est décrit dans ce passage. L'aspersion du sang démontre que la relation entre Dieu et le pécheur est restaurée. Le sang sur les cornes de l'autel des parfums indiquait que le pécheur pouvait adresser des prières à Dieu. C'est parce que Christ s'est sacrifié pour nous que nous pouvons adorer et prier Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. Le reste du sang était répandu au pied de l'autel d'airain. Ceci soulageait la conscience du pécheur et lui ôtait ses sentiments de culpabilité. C'était le remède pour une personne convaincue de péché, et c'était le seul remède qui convenait à l'intelligence et au cœur. Mes amis, comprenez que lorsque Christ vous a pardonné vos péchés, il vous a aussi pardonné. Il n'y a plus rien à dire ou à ajouter. Vos péchés sont rendus au fond de l'océan. Vos péchés sont si loin que Dieu affirme qu'il ne s'en rappelle pas. La question de notre péché est réglée et nous n'avons plus à nous sentir coupables. Vous n'avez plus à vous demander si vous êtes pardonné. La question est réglée une fois pour toutes. Christ est le sacrifice parfait pour nos péchés. Versets 8 à 10. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce. Et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Ces détails au sujet de l'offrande de culpabilité sont identiques à ceux de l'offrande d'action de grâce. Le péché est pardonné. La communion avec Dieu est restaurée. Le gras est brûlé sur l'autel. Dieu reçoit ce qu'il y a de meilleur. Versets 11 et 12. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Ces détails différent entièrement de ce qu'on faisait avec les autres sacrifices. Le reste du taureau était brûlé à l'extérieur du camp. Nous pensons que cela soulignait l'horreur du péché. Cet animal était une offrande de culpabilité. Elle ne faisait pas allusion à la consécration ou à la personne de Christ. Elle représente Christ alors qu'il est fait péché pour nous, alors qu'il porte tous nos péchés. Ce sens profond est expliqué dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Chers amis, prochaine émission, Lévitique, chapitre 4, versets 13 à 35.
Merci, Régent. Eh bien, on a encore vu aujourd'hui que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me rappelle les premiers temps où quelqu'un me parlait de l'amour de Dieu. Elle me disait que je pourrais être certaine d'aller au ciel un jour. Elle me disait que mon entrée au ciel était gratuite, mais que premièrement, je devais avouer que j'étais une pécheresse. J'ai eu toute une réaction quand elle a dit ça. J'ai tout de suite répliqué, « Je fais pas ça, moi, des péchés. » Et tout de suite après, je me suis sentie coupable. je dois avouer que Dieu avait déjà commencé à travailler dans mon cœur pour que je puisse reconnaître Jésus comme mon Sauveur. Ce serait décourageant de savoir qu'on a tous péché et qu'on est tous privés de la gloire de Dieu pour l'éternité si Dieu ne nous avait pas donné une solution pour le pardon de nos péchés. Mais on a vu aujourd'hui qu'il nous avait donné cette solution dans la personne de Jésus, son Fils bien-aimé. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans son épître à Timothée, que Régent a lu il y a quelques minutes. Il a dit que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et même Paul se voyait lui-même comme étant le plus grand des pécheurs. On a vu aujourd'hui qu'on doit reconnaître notre péché, qu'on ne doit pas le cacher, mais plutôt l'avouer à Dieu pour qu'il en efface la peine. Jésus a payé la dette de notre péché. Il est notre victime expiatoire. Il ne nous demande pas de sacrifice comme dans l'Ancien Testament. Il nous demande seulement de recevoir le don gratuit de la vie éternelle en reconnaissant qu'on est des pécheurs perdus et qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Oui, Jésus-Christ est notre solution. Ce n'est pas notre religion qui va nous sauver. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres, nos souffrances. Il y a seulement la mort de Christ à la croix qui peut nous procurer le pardon de nos péchés. Ô mon ami, confie-toi en Jésus-Christ. Son sacrifice à la croix suffit pour que tu sois entièrement pardonné. Dieu veut te pardonner. Il veut te donner la vie éternelle. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Jésus est devenu péché pour toi. Il s'est laissé crucifier comme si lui-même était un grand pécheur. Il a payé ta dette entièrement. Reçois Jésus comme ton Sauveur aujourd'hui même. N'attends pas demain. Il sera peut-être trop tard. Ça me fait penser au malfaiteur qui était sur la croix à côté de Jésus. Il lui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Si tu avais à mourir aujourd'hui, t'aimerais pas entendre ces paroles juste avant de mourir. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais le moyen, c'est Jésus. Reçois-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Reçois ce Sauveur merveilleux. Le prophète Ésaïe dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Reçois l'agneau de Dieu dans ta vie.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.